Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous sommes le mardi 24 mars. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, des règles plus strictes et un confinement qui va durer encore plusieurs semaines. Le Premier ministre a annoncé hier soir la fin des marchés ouverts et des sorties désormais limitées à une heure par jour. Annonce également de l'utilisation encadrée de la chloroquine uniquement pour les cas graves. Les autres titres, Agnès.
Enquête sur la mort de 20 résidents d'un EHPAD des Vosges, l'avenir en suspens des élèves de terminale, l'accès à l'IVG de plus en plus difficile en Pologne, des hôtels réquisitionnés pour accueillir le personnel soignant et puis la prescription BD du jour, les artilleuses, un trio de cambrioleuses hors pair.
Et nos invités ce matin, 7h50 Léa.
Elle et il continuent de travailler pour nous permettre de manger, de nous approvisionner. Les salariés de la grande distribution sont en première ligne dans cette crise. Sont-ils suffisamment protégés? Auront-ils tous une prime exceptionnelle? On pose ces questions au patron des Super U, Dominique Schellcher, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale, nous recevons la professeure Karine Lacombe. Elle est la chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. Également au micro d'Inter tout à l'heure, le docteur Philippe Klein. Lui est médecin généraliste, mais à Wuhan, en Chine. Vos questions dès maintenant pour tous les deux, 01 45 24 7000.
France Inter.
Expliquer, justifier, préciser pour tenter de convaincre tout le monde de la nécessité de respecter les mesures de confinement quand certains prennent encore trop de liberté avec les règles. Une semaine après les premières annonces de confinement, le Premier ministre a donc annoncé hier aux 20h de TF1 la fermeture des marchés en plein air et des restrictions en matière de jogging. Le détail avec Laurence Perron.
Au 7e jour du confinement, il s'agissait pour le Premier ministre de montrer un exécutif mobilisé et réactif. Face à la montée de la polémique sur tous ceux qui ne respecteraient pas assez les règles, le Conseil d'État ayant même considéré que les règles n'étaient pas assez claires, face aux soignants qui réclament un confinement plus strict, le Premier ministre n'a durci qu'une des consignes sanitaires en vigueur, l'interdiction des marchés ouverts. Pour le reste, il a précisé les modalités de certaines pratiques qui divisent les Français confinés. Oui, on peut aller courir, mais seul, dans un rayon de 1 km autour de son domicile et une seule fois par jour. En revanche, il va alourdir par décret les amendes pour non-respect des mesures de confinement, jusqu'à 1 500 €. Pas question pour l'heure de passer à un confinement total. Le président de la République n'y est pas favorable, mais tout cela est assujetti, quoi qu'il en soit, aux préconisations du Haut Conseil de Santé publique aujourd'hui. Et le Premier ministre prévient, le confinement va sans doute encore durer plusieurs semaines.
Dès ce matin, donc, les marchés en plein air sont interdits, sauf dérogation de la préfecture. Dans les villages où les marchés sont essentiels, ils pourront être maintenus. Mais pour certains agriculteurs qui n'écoulent leurs produits qu'en vente directe en circuit court, le coup est rude. La présidente de la Fédération nationale des marchés de France, Monique Rubin, parle d'une décision incompréhensible.
Vraiment le coup de massue, parce que même si nous nous attendions à ce qu'il y ait des dispositions de prise, un resserrement peut-être des règles par rapport au maintien de nos marchés, nous avions quand même grand espoir que les marchés puissent continuer. C'est une catastrophe économique pour l'ensemble de nos commerçants, de nos artisans, de nos producteurs, de nos agriculteurs. On a tout un pan qui s'effondre et je puis vous assurer que je ne sais pas quelles seront les aides pour l'ensemble de ces métiers, mais il va falloir quand même que là, on les voie arriver à grands pas.
Réaction recueillie par Manuel Ruffez. Autre précision hier du Premier ministre, seule la très proche famille peut assister aux enterrements, soit une vingtaine de personnes maximum. L'autre information de la soirée, ce sont les règles claires établies pour l'utilisation de la chloroquine. Ce traitement est préconisé et utilisé notamment par l'équipe du professeur Raoult à l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. D'autres médecins mettent en garde contre les effets secondaires. Le ministre de la Santé s'est rangé hier soir derrière les conclusions du Haut Conseil de Santé publique et plaide donc pour une utilisation très encadrée de la chloroquine.
Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement en l'absence de recommandations, à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toute donnée probante.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et dans le journal de 8h, nous entendrons le président du Haut Conseil de Santé. Les équipes soignantes qui paient un lourd tribut dans la lutte contre le Covid-19 avec la mort de 5 médecins. Le premier exercé dans l'Oise, les 4 autres dans l'Est de la France. Inquiétude également en Guadeloupe où 2 hauts responsables du CHU de Pointe-à-Pitre sont contaminés. Le bilan en France est ce matin de 860 morts et près de 2000 personnes en réanimation. Un EHPAD des Vosges est particulièrement touché, celui de Cornimont où résident 163 personnes. 20 décès ont été recensés depuis le début de la crise. Timur Özturk.
Les premiers cas sont signalés dès le début du mois, explique Christophe Nejlen, député sans étiquette de la circonscription.
Une personne qui est au rassemblement qui a eu à Mulhouse et ensuite allée à l'EHPAD de Cornimont, qui est un peu l'un des premiers EHPAD touchés par le coronavirus.
L'EHPAD est rapidement confiné, mais 2 premiers résidents décèdent le 13 mars, alors qu'une part importante du personnel est infectée.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 30% des personnes qui travaillent qui sont en arrêt maladie.
La solidarité de soignants volontaires de toute la région permet de remplacer ces absents, mais le coronavirus progresse pour atteindre un pic dans l'établissement.
La plupart des cas qui étaient des cas graves ont amené à des décès. On va en avoir beaucoup moins dans les jours à venir. Mais bien entendu, il devrait encore y avoir des décès et je le déplore.
Christophe Nejlen salue le dévouement du personnel médical de l'EHPAD, mais il regrette un manque de masques et de gants quand la maladie est arrivée.
On aurait eu ces moyens matériels dès le début. Eh bien, on n'est pas sûr que ça se serait développé aussi vite.
Par précaution, les résidents les plus fragiles de l'établissement ont été évacués et pris en charge par des centres hospitaliers de la région.
Pas d'inquiétude sur le plan sanitaire pour les plus jeunes qui ne développent pas de forme grave de la maladie, mais beaucoup d'interrogations sur l'avenir, particulièrement pour les élèves de terminale. Des milliers d'entre eux devaient passer ces jours-ci les concours d'entrée aux grandes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs ou Sciences Po. Écrits et oraux ont été annulés, bien sûr. Alors comment seront recrutés les futurs étudiants? Élément de réponse avec Sonia Princé.
Habituellement, les candidats passent plusieurs épreuves écrites. Raisonnement et compétences, langue, synthèse pour les écoles de commerce par exemple, mais en raison de l'impossibilité d'organiser ces épreuves, les élèves seront sélectionnés à partir de leur dossier Parcoursup, leurs notes de première et des 2 premiers trimestres de terminale, les appréciations des professeurs. C'est le cas notamment du concours Sésame qui permet de départager 13 000 candidats qui veulent accéder à 14 écoles de commerce, le cas aussi des concours Access, Passerelle ou encore Avenir pour 8 écoles d'ingénieurs. Les différentes formations pourront mettre des coefficients sur les notes en fonction des disciplines. Jusqu'au 2 avril, les candidats peuvent encore peaufiner leur dossier Parcoursup qui sera donc déterminant. Certaines écoles ont d'ores et déjà supprimé aussi les oraux, comme Centrale Lille. D'autres souhaitent les maintenir pour le moment. Quant à Sciences Po, le concours commun des IEP de province est prévu le 18 avril. Aucune décision n'a été annoncée pour le moment, mais sa tenue paraît compromise. Pas de décision non plus pour les oraux de Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, où les épreuves écrites ont déjà eu lieu. Toutes ces formations l'assurent. Chaque candidat sera prévenu des nouvelles modalités de sélection.
Sur le plan économique, pour tenter de préserver le secteur du tourisme très durement touché, le Conseil des ministres validera demain des ordonnances qui vont permettre aux voyagistes de transformer les voyages annulés en coupons à utiliser dans les 18 mois qui viennent pour éviter aux agences d'avoir à rembourser intégralement et d'un coup l'ensemble des voyages achetés. C'est une question qui se pose en France et dans plusieurs pays européens. L'accès à l'IVG est-il garanti en cette période de crise sanitaire? Oui, a répondu hier le gouvernement français. Les interruptions volontaires de grossesse sont considérées comme des interventions urgentes, a déclaré le ministre de la Santé et la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. En Pologne, la situation est beaucoup plus compliquée. L'accès à l'IVG est déjà très restreint et les vols vers l'étranger sont suspendus depuis plusieurs jours. Thomas Giraudot est à Varsovie pour France Inter.
Depuis 10 jours, le téléphone de Justyna Wejenska n'arrête pas de sonner. Cette militante aide les Polonaises à partir à l'étranger pour avorter, mais les vols vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni sont cloués au sol.
J'ai soutenu un couple de jeunes étudiants. Ils devaient avoir à peine 100 euros dans leur poche. Ils ont obtenu un rendez-vous à Amsterdam. Alors, ils ont dû prendre un bus jusqu'à Berlin, puis prendre un train pour Amsterdam. Et nous ne pouvons pas être sûrs à 100% qu'ils pourront rentrer en Pologne, car on ne sait pas si et quand les autres pays vont fermer leurs frontières.
Dans le pays aussi, avorter légalement est encore plus difficile que d'habitude. Depuis 1993, les Polonaises peuvent recourir à l'IVG seulement en cas de viol, de danger pour leur vie ou de malformation du fœtus. Encore faut-il que les gynécologues acceptent de le pratiquer en ce moment. Camilla Ferenc est juriste au planning familial.
Les médecins essaient de repousser toutes les autres opérations, les autres services. L'avortement est déjà l'opération médicale la plus stigmatisée en Pologne. Maintenant, elle est encore plus dénigrée, mise dans un coin. Tous les diagnostics prénataux ont été suspendus.
Ces examens sont pourtant indispensables pour détecter d'éventuelles anomalies du fœtus, à l'issue desquelles les femmes peuvent décider de garder ou non le bébé. Varsovie, Thomas Giraudeau, France Inter.
Deux images fortes à l'étranger ce matin en Chine. D'abord, les restrictions de déplacement vont être levées dès demain dans la région du Hubei et à partir du 8 avril dans la ville de Yuran, foyer de l'épidémie de Covid-19. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Et puis en Espagne, où l'épidémie fait des ravages, une patinoire de Madrid a été transformée en morgue après une journée noire où près de 500 décès ont été recensés. Des pensionnaires de maisons de retraite ont été retrouvés morts dans leur lit par des militaires appelés en renfort. À noter également le confinement décrété en Grande-Bretagne pour au moins 3 semaines. Confinement également en Afrique du Sud. Couvre-feu décrété en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En tout dans le monde, près de 2 milliards d'habitants sont désormais concernés par des mesures de confinement. Enfin, les autorités cubaines ont décidé de placer à l'isolement tous les touristes encore présents sur l'île, soit environ 32 000 personnes invitées à rentrer chez elles le plus rapidement possible.
Il est 7h11, retour en France, Agnès, avec la solidarité. Elle s'organise dans le Grand Est.
Avec les patrons d'un groupe hôtelier de Franche-Comté qui ont dû accueillir des soignants ou des patients en phase de récupération, il a fallu pour cela rappeler du personnel et persuader hommes et femmes de venir travailler malgré la peur de la maladie, ce qui n'a pas toujours été facile. Cécilia Arbonin.
Dirigeante d'un groupe hôtelier de 12 établissements dans l'Est de la France, cette chef d'entreprise a vu son quotidien bouleversé.
Nous avons commencé par ne plus avoir de clients. Et depuis la semaine dernière, sur quelques établissements, nous commençons à avoir ou des soignants ou des malades. Sur Mulhouse notamment, qui est la région la plus impactée, nos hôtels ont été réquisitionnés par l'État.
Il a fallu convaincre les équipes de revenir travailler.
Nous avons eu en cascade des arrêts maladie, des droits de retrait. Donc il a fallu faire appel à des personnes extérieures.
À sa grande surprise, des cadres masculins sur lesquels elle pensait pouvoir s'appuyer ont dit non.
Parce que sur certains établissements, j'ai des directeurs qui ont fait le choix de fermer leurs hôtels. Nous leur avons interdit cela. Et là, je voudrais en profiter pour tirer mon chapeau parce que ce sont les femmes qui ont eu la force de revenir en disant « il y a du boulot, on revient ». Il y a des femmes de ménage, des femmes qui tiennent la réception. La brasserie ne tourne qu'avec les soignants, donc il faut les nourrir quand même. Les soignants sont en première ligne. S'ils sont sur place pour s'occuper des gens, nous, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire.
Il y a chez cette femme chef d'entreprise un mélange de gratitude et de fierté à avoir transformé ses chambres d'hôtel en dortoirs pour des blouses blanches.
Cécilia Arbonin, des femmes encore, sorties cette fois de l'imagination de deux auteurs de BD dans Les Artilleuses de Pével et Willem aux éditions Draco. On suit les aventures de trois cambrioleuses hors pair et hors normes dans le Paris de 1911. Un Paris où se croisent parisiens, fées et gnomes. Une BD lue pour nous par Jacqueline Pétrose.
Nous voilà dans le Paris des merveilles, incroyable univers que l'on croit reconnaître, mais où se croisent dans le ciel des ballons dirigeables et des dragons, et où un faune s'acoquine avec le deuxième bureau pour faire voler une sagillaire, un sceau monté en bague, au pouvoir encore méconnu, et que vont se disputer la France et ses brigades du Tigre et les services du Kaiser pour l'Allemagne. L'occasion bien sûr de rencontrer le trio de choc, Lady Remington, Miss Winchester et Mlle Gatling. Et vous n'aurez pas le temps de souffler entre les explosions, les tirs et les poursuites pour dérober la fameuse bague enfermée dans un coffre de banque, aucun mur ne va résister à ces surdoués du braquage. Ce premier tome est mené tambour battant. Pierre Pevel, grand auteur de romans fantasy, passe à la BD avec tout son talent. Les personnages de Willem aux tronches formidables sont en mouvement constant dans un univers fourmillant de détails, rehaussé par les couleurs de Tania Wenisch. Ces artilleuses au charme piquant laissent augurer d'une série rocambolesque à souhait, une nouvelle réussite pour la toute jeune maison d'édition Draco, dédiée à la fantasy et à l'aventure.
Les artilleuses de Pével et Willem chez Draco.
Merci Agnès Soubiran.